Parce que du coup, vous êtes communiste, mais sur quelle tendance? Parce que c'est ça le communisme, c'est pas juste...
La tendance Montmartre, Coco,
Parce
Bobo.
En fait, là, vous n'êtes pas du tout trotskiste et communiste, normalement, vous êtes
c'est
en guerre.
C'est ça, hein. Yann Brossard?
Oui, non, on n'est pas. On a...
Ah,
non,
mais si, vous savez, on peut toujours si, faire des caricatures. Moi, je suis communiste français. Le Parti communiste en France, qu'est-ce que c'est? C'est 36, les congés payés. C'est 45, un gouvernement auquel on participe avec le général de Gaulle et qui met en place la sécurité sociale.
C'est la collaboration avec les nazis.
Pardon ?
Bah, le Parti communiste français.
Non, non, non. Ah, c'est non, la résistance, jamais. Monsieur. C'est 75 000 fusillés. Pardon ?
Non, mais pardon. Ok, très bien, très bien, très bien.
Je crois qu'il va falloir que vous révisiez vos livres d'histoire.
Enfin, le Parti communiste
français. C'est honteux ce que vous avez dit.
C'est une blague.
C'est honteux.
C'est une blague.
C'est honteux.
Le général de Gaulle a sauvé le Parti communiste français après la guerre en l'intégrant au
pouvoir. Ce que vous dites, monsieur, c'est une honte.
Alors qu'il avait complètement collaboré.
Absolue. C'est une insulte. C'est une insulte. Eh bien, prenez-le comme ça, si vous voulez. Fusillés, membres du Parti communiste qui ont participé à la résistance.
Ils se sont réveillés dans la guerre, les communistes.
Vous dites n'importe quoi, monsieur. Le colonel Fabien, il a résisté dès le premier jour. Donc vous arrêtez de dire n'importe quoi. Ça suffit.
Mais c'est vous qui
devez
arrêter de dire n'importe quoi.
C'est honteux.
Si vous dites que les communistes sont les résistants de la première heure,
ce que vous dites est honteux. C'est une insulte à tous ces gens qui se sont sacrifiés pour sauver la France.
Depuis 3 ans, son nom trône à quelques mètres de l'ancienne usine textile Leblanc, devenue maison folie de Oisem. Au cœur de ce quartier ouvrier que Martha Desrumeaux a arpenté des années durant à la rencontre des travailleurs. Martha Desrumeaux, un visage presque oublié, et pourtant un destin extraordinaire, aujourd'hui enfin compté dans un livre par Pierre Outric.
Cette jeune ouvrière de Comines va jouer un rôle national, car c'est elle qui va impulser, aux côtés de Maurice Thorez, de Benoît Frachon et d'autres, la stratégie du Front Populaire.
Martha Desrumeaux sera ainsi la seule femme présente à la signature des accords de Matignon en 1936, l'un des points d'orgue d'un destin débuté près de 30 ans plus tôt, à Comines. C'est là que Martha naît dans une famille nombreuse, laquelle entrera comme ouvrière à l'usine Cousin à seulement 12 ans. La même année, elle adhère à la CGT, c'est l'âge des premières révoltes, le début d'un engagement qui l'amènera rapidement à mener des grèves, puis à se consacrer entièrement à la lutte syndicale et politique avec le Parti communiste. À l'époque, elle milite notamment avec le père d'Yvonne de Vernet.
C'était une femme qu'on ne peut pas cataloguer, on ne peut pas la cataloguer. J'aurais pas fait ce qu'elle a fait. Elle a surtout milité pour les conditions féminines, la condition des femmes dans les usines textiles qui était terrible.
Mais sa lutte aura aussi un prix. 1939, la guerre éclate, résistante de la première heure, Martha, la communiste, sera arrêtée et déportée à Ravensbrück en 1942.
Et là encore, avec Geneviève de Gaulle, avec des femmes de toute nationalité, elle va organiser la résistance clandestine dans le camp face aux SS.
300 survivantes du camp de Ravensbrück sont rentrées.
Rescapée, Martha Desrumeaux revient à Lille, minée par le typhus, mais toujours aussi déterminée. Elle reprend sa place au PCF et à la CGT, est élue adjointe au maire de Lille, puis finalement députée. L'une des premières femmes à entrer à l'Assemblée.
Il y a 70 ans, dans les rues de Paris, la foule laissait éclater sa joie. Rires, embrassades et chants ont rythmé la journée du 25 août 1944, jour de la libération de la capitale. Pour certains, pourtant, les sentiments étaient plus confus. La célèbre résistante Madeleine Riffaut, aujourd'hui âgée de 90 ans, n'a pas oublié le chaos qui régnait à la veille de la libération de la ville. Plus d'un millier de Français ont trouvé la mort ce jour-là. Au bonheur de retrouver la liberté, se mêlait donc la tristesse d'avoir perdu des camarades tombés dans les combats de rue.
La population, elle, ça se comprend, s'est précipitée, a embrassé tout le monde, et tout le monde s'embrassait, et tout le monde était joyeux. Mais nous, on était en train de ramasser les cadavres en même temps.
70 ans après, rares sont les résistants encore en vie. Pour ces derniers témoins, il est donc essentiel de raconter la guerre et leur combat pour la liberté.
Sur mission, fait ce geste d'abattre un sous-officier nazi, un beau dimanche après-midi, sur un pont près des Tuileries, où tout le monde m'a vu. Et tout le monde a vu qu'une petite jeune fille à bicyclette pouvait très bien faire un geste pareil.
Cet acte vaudra à Madeleine Riffaut d'être enfermée puis torturée par les soldats allemands avant d'être relâchée lors d'un échange de prisonniers. Pas de quoi arrêter la résistante qui continuera jusqu'au bout son combat contre les nazis.
Elle se sert en fait d'une amie de la famille qui fait croire qu'elle est lingère et qui vient chercher le linge et elle glisse dedans les lettres de Daniel.
C'est des lettres à qui ?
À sa mère. Et alors le plus émouvant pour moi se trouve dans cette vitrine parce qu'elle apprend ma naissance. Et il y a une des lettres où elle parle de sa sœur qui s'appelle Emma et elle dit ainsi « Emma a eu une petite fille, que de nouvelles nièces à connaître ». Et quelques temps après, j'ai retrouvé cette lettre hier seulement où elle dit « Comment s'appelle la petite fille d'Emma ?» Et c'est moi, elle ne connaît pas encore mon nom. Mais avant de partir, quand elle est livrée par la police allemande pour partir en camp de concentration à Birkenau, avec un bout de sa robe, elle fait une poupée pour ma naissance. Et là voilà. Donc ça, j'ai gardé toute ma vie. C'est quelque chose d'extrêmement précieux qui n'a aucun prix pour moi. Vous voyez comme elle est faite avec des bouts de ficelle, petits morceaux de dentelle. Elle a brodé les yeux, voilà.
Daniel Casanova. Cette courte biographie sera suivie par le chant des partisans, chanté en Corse par Antoine Ciosi. Elle nous disait « La vie est belle, notre idéal triomphera. On peut tuer les hirondelles, après avril, mai fleurira. Printemps de Daniel, printemps des lilas. » Ce poème chanté par des générations de communistes au lendemain de 1945 évoque Daniel Casanova, symbole de la lutte héroïque des femmes de France contre l'occupant allemand. Daniel Casanova a passé toute son enfance en Corse, où elle est née. Elle quitte l'île de Beauté pour faire ses études à Paris à la faculté dentaire. Elle mène de front, étude des combats politiques et adhère aux jeunesses communistes. 1934-1936 sont des années importantes où des luttes sociales et politiques sont ardentes. Elle crée l'Union des jeunes filles de France afin de faire participer plus librement les jeunes filles aux luttes qui s'amplifient. Pendant la guerre d'Espagne, l'UJFF anime un grand mouvement de solidarité en faveur des républicains espagnols. Elle dirige des convois de vivres vers Barcelone et Madrid. Lorsque le Parti communiste français est interdit en 1939, Daniel entre dans l'illégalité et prend la tête du mouvement national des femmes, organise des manifestations, brave tous les dangers, toutes les embuscades. Recherché par toutes les forces de police et de Gestapo, Daniel ne peut échapper à l'arrestation qui a lieu le 11 février 1942. Aussitôt transférée à la prison de la Santé, elle est soumise au secret 6 mois durant. Les périodes de cachot alternent avec les séances d'interrogatoire les plus pervers. Finalement, elle est transférée au fort de Romainville, avant la déportation vers l'Allemagne. Le 24 février 1943, apprenant son départ imminent vers un camp de la mort, elle a juste le temps d'écrire ce qui sera son dernier message. Je suis heureuse de cette joie que donne la conscience de n'avoir jamais failli et de sentir dans mes veines un sang impétueux et jeune. Notre belle France sera libre et notre idéal triomphera. À l'arrivée au camp d'Auschwitz, où avec ses compagnes, elle pénètre en chantant la Marseillaise, Daniel, en sa qualité de dentiste, est affecté à l'infirmerie. Dans ce lieu, elle découvre les confins de l'horreur et de la souffrance humaine. Celles qui sont admises à l'infirmerie le sont pour attendre la mort. Les médicaments, les possibilités de soins sont pratiquement inexistants. Lorsque le typhus éclate et se répand dans le camp, Daniel est au contact des malades, tente de les soigner, de leur apporter un peu de réconfort. Mais guérir est impossible. Daniel, à son tour, est frappé par cette terrible maladie. 4 mois après son arrivée à Auschwitz, elle disparaît à jamais dans les fours crématoires. Daniel, héroïque, symbole de la résistance féminine, a reçu un des plus beaux hommages, celui de couples communistes qui donnèrent à leur fille, née après 1945, le prénom de Daniel. Son nom a été donné à une rue du 2e arrondissement de Paris, tandis qu'un bateau effectuant la liaison Marseille-Corse porte aussi le nom de Daniel Casanova.
Other camps were death camps, meant to kill en masse healthy people, millions of men, women and children, by means of a deadly gas, Zyklon B, spread in gas chambers. In their crematorium furnaces, they could burn daily thousands of corpses. A French Auschwitz survivor is here to testify. A communist, she was deported for acts of resistance.
Êtes-vous témoin direct
oui.
de la sélection à l'arrivée des convois?
Oui, parce que quand nous avons travaillé au bloc de la couture en 1944, notre bloc, le bloc où nous habitions, était en face de l'arrivée du train. On avait perfectionné le système. Au lieu de faire la sélection à la halte d'arrivée, une voie de garage menait le train presque jusqu'à la chambre à gaz. Et l'arrêt, c'est-à-dire à 100 mètres de la chambre à gaz, était juste devant notre bloc, mais naturellement séparé par deux rangées de fils de fer barbelés. Nous voyons donc les wagons déplombés, les soldats sortir, les hommes, les femmes et les enfants des wagons, et on assistait aux scènes déchirantes, des vieux couples se séparant, des mères étant obligées d'abandonner leur jeune fille, puisqu'elle entrait dans le camp, tandis que les mères et les enfants étaient dirigés vers la chambre à gaz. Tous ces gens-là ignoraient le sort qui leur était réservé. Ils étaient seulement désemparés parce qu'on les séparait les uns des autres, mais ils ignoraient qu'ils allaient à la mort. Par les...
You're going too fast.
Sorry. Une nuit, nous avons été réveillés par des cris effroyables. Nous avons appris le lendemain matin par les hommes qui travaillaient au Sonderkommando, le commando des gaz, que la veille, n'ayant pas assez de gaz, ils avaient jeté les enfants vivants dans les fournaises.
Amigo, un santi i corbacci in la piaggia arrabbiati. Amigo, un santi lagna i paesi incatenati. Ai o patrioti di campagna o di città, chi gliel'ora? Stasera un dubita che un nemico l'ave muta lampa fora. Ognuno è cosciente oramai dell'impronto di amosa. Amico, tu caschi, venerà un altro uomo alla riscossa. Domani si chierà, do sangue sotto alle sobote. Cantate, fratelli, chi ci sente a libertà stanotte. Se non ti siano le parole de prison pour nos frères, la haine à notre os et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève.